Ich habe vorhin schon angedeutet,
J'ai
si
déjà
tu prédiques plus riche,
laissé entendre tout à l'heure que quand
ist man froh,
on prêche
wenn
autant
man
que moi,
sitzen bleiben darf.
on est heureux de pouvoir rester
Andererseits,
assis.
sagte Paulus,
D'un autre côté, Paul
Katechismus,
a dit
wehe mir,
qu'il avait une
wenn
nécessité
das
divine, un devoir
Evangelium
divin.
nicht
Il
verkündet
dit,
wird.
malheur à moi si j'annonce pas
Et wir
l'évangile.
glauben,
1
sagte
Corinthiens
er,
9,
zu
verset
können,
16.
und das nicht
Et nous croyons pouvoir dire, et cela d'un
dass
cœur
wir das
sincère,
ursprüngliche,
que nous
von
prêchons
Gott geschenkte,
l'évangile
vorhin
pur,
geoffenbart,
originel,
reine
donné et révélé par
Evangelium
Dieu,
Jesu Christi,
l'évangile pur de
die gleiche
Jésus-Christ.
Botschaft
Le même
mit dem
message,
gleichen Resultat,
avec les mêmes résultats,
wie sie am Anfang
comme
war.
cela a été au commencement.
Und unser geliebter Bruder hat ja
Et notre bien-aimé
vorhin speziell
frère a
erwähnt,
mentionné tout à l'heure,
von dem
spécialement frère Branham.
Evangelium nicht
Et
an
nous
sich,
partageons
aber
ce point de
schon
vue,
das von Herzen,
tous, et cela de
denn
tout
Gott
cœur,
hat ihn
car Dieu
in einer
l'a
ganz
utilisé
außergewöhnlichen Weise
et béni d'une manière
gebraucht und
tout
gesegnet.
à fait
Er
extraordinaire.
war seit den Tagen
Depuis les jours de notre Seigneur,
wirklich der Einzige,
il était réellement le seul
der den
qui
Umgang
ait eu
mit Gott im Herzen hatte, wie Mose,
une
die
communion
nur ganz wenige,
avec
die
Dieu
auf Erden lebte.
comme celle que
Er
Moïse
weiß,
avait eue avec
dass er
Dieu.
von Athens bei Nürnberg
Et très peu
hinaus
d'hommes ont
mit
expérimenté
einem
cela sur
jeden
terre.
unter euch
Il est
liebt.
dit de Moïse,
So redet
je l'ai lu
Gott
hier
zu ihm
soir
und offenbare
près de Nürnberg.
durch Träume und
Il est dit
Sinne.
de Moïse, lorsqu'il y aura parmi
Versuche
vous un prophète,
mich
c'est
mit
dans une
meinem
vision
Volk,
que moi, le Seigneur,
mit
je me
ihm,
révélerai à lui.
nehme ich
C'est
auch all
dans un songe que je
dies
lui
euch.
parlerai. Il n'y
Als
en
ich
a
gestern
pas
an dieses Wort
eu
dachte,
ou il
dass
n'en est
ein
pas
Mädchen
ainsi de mon
bei mir
serviteur Moïse,
das
selon
Wort
Nombre
erlebt
12, verset
hat.
6, 8.
Wir
Lorsque j'ai
wissen,
pensé à cette
dass
parole
der
hier,
Engel des
une
Herrn
expérience m'est venue à l'esprit que
allgemach
Frère Branham
besuchen kann, nicht
avait réellement
nicht
vécu. Vous
in der
savez
Feuer,
que l'ange du
Feuer
Seigneur
Zone,
est venu à lui
sondern
plusieurs
auch
fois, pas
in der
seulement dans la lumière
Nacht, es vor ihm
ou
stand,
dans la colonne de feu et
nicht
de nuit,
gesegnet,
mais
sondern
aussi de manière visible,
von
se tenant
Jesus
devant
selber
lui et lui
persönlich,
parlant. Et
bei
chaque
einem
fois,
Heilungsgottesdienst, stand der Engel
c'est
direkt an
lors d'une
seiner
réunion des
Seite.
guérisons,
Und das, was Bruder Branham
l'ange
in
se tenait
Athens
directement
sah,
à sa droite.
das war
Et
eine
ce que le
Sache.
frère Branham
Die zweite
voyait dans une
Sache,
vision, c'était
was
une
der
chose.
himmlische ihm
La seconde
sagte,
chose, c'était ce que
dass er
l'ange lui
ihm
disait
mitzuteilen
qu'il
hatte.
devait ensuite
Und er
communiquer.
sagte wörtlich,
Et il a
am
dit mot pour
Tag
mot,
des
au jour du
Gerichts
jugement,
werdet ihr
vous
sehen,
verrez que
dass der
l'ange
Engel
du Seigneur
nicht
se
zweifels
tient
von mir entfernt
à moins de
ist.
deux
Ein Fuß,
pas de
ein
moi.
Zwölf Zoll,
Oui,
ein
un
Zwölf
pas
oder
à
Zwölf,
12 pouces
2,5
et
Meter. Können Sie sich
un
ausrechnen,
pouce
was das
fait
ist?
environ
Nun wahr,
2,5 cm.
deshalb hat
Vous
Bruder
pouvez
Branham
calculer
nie
deux
alle Übersetzer
pas
zu seiner Rechten gehabt.
cette
Die
distance
Bibel
environ. C'est
übersetzt
pourquoi
in der
Frère
ganzen
Branham
Welt
n'avait
fast
jamais de
immer,
traducteur à
immer,
sa droite.
immer.
Tous les traducteurs partout dans le
Aber
monde entier
einmal,
se tenaient toujours à sa
sagte
gauche.
er
Mais
tatsächlich
une fois,
erlebt, dass
il a
er
réellement
Jesus
expérimenté
gesehen hat.
qu'il a vu le Seigneur.
Es war im Weizenfeld,
C'était dans un champ de
und
blé.
der Wind wehte, er
Le vent
wehte das
soufflait
Gewand des
et
Herrn,
agitait le vêtement du
und der Herr
Seigneur.
hatte
Et
sich
le
von ihm
Seigneur
abgewandt. Er schaute nicht
s'était retourné de
zu
lui.
ihm,
Il ne regardait
sondern
pas vers
il
lui.
wusste natürlich,
Et Frère Branham
dass
savait
er Jesus
naturellement
kennt.
que c'était le Seigneur.
Und in dem
Et
Augenblick,
au moment
als er Jesus sagte,
où il a dit Jésus,
schaute der Herr
le Seigneur
zu ihm.
se tourna vers
Man
lui
hat ihm seine beiden Hände
et lui a
entgegengestreckt, und
tendu
er
ses deux
fesselte
mains. Et Frère Branham
ihn an und
le
rief:
regarda, puis
Schau,
tomba face contre terre.
ganz sicher,
Et
kein Mensch
certainement,
kann ein
aucun homme
solches
ne
Erlebnis
peut
ertragen.
supporter une telle
Jesus
Expérience en
war
restant debout.
entflammt. Ein Daniel fiel um,
Daniel est tombé
andere
et
sind
d'autres aussi
umgekehrt.
sont tombés.
Und Bruder Brennan
Et
sagte:
Frère Branham a
Gott
ensuite dit,
liebt keinen Kunstmaler,
aucun
deren Gesicht
peintre
Züge des
ne
Herrn
peut représenter les traits du
ausdrücken
visage du Seigneur.
könnte, zu Papier bringen könnte.
Il
Es
disait,
hatte einerseits
d'un côté
Majestät,
majestueux,
dass man vor ihm
au
fliehen
point
konnte,
qu'on pourrait fuir devant
andererseits
lui,
ein
d'un autre
Ausdruck
côté, une
der
expression
Liebe,
d'amour
die einen anzieht.
qui
Und
attire. et accueille. C'est vraiment ainsi. Il y a eu des hommes qui réellement ont été liés à Dieu. Ces expériences, aucun prophète ne les a recherchées. Elles ont été accordées aux hommes de Dieu. Personne ne pouvait dire au Seigneur, donne-moi maintenant une vision ou confie-moi une mission. Le Seigneur distribue comme il veut. Et le serviteur ne dit pas au Seigneur ce qu'il doit faire, mais c'est le Seigneur qui dit au serviteur ce qu'il doit faire. Mais, en ce qui nous concerne, nous pouvons dire avec sincérité que nous nous réjouissons profondément que Dieu se soit ainsi abaissé dans nos jours, car il faut bien le considérer. Pendant 2000 ans, on n'a fait que répéter et répéter ce que Dieu avait fait autrefois. Mais on ne pouvait pas poser la main sur quelque chose que Dieu aurait fait de manière surnaturelle il y a 200 ou 400 ans. D'autant plus, nous pouvons être certains, justement parce que le Seigneur s'est révélé d'une manière si majestueuse. Et ce qui est beau, c'est qu'une telle révélation est toujours liée à un appel direct. Et avec cet appel, une mission, un envoi divin, et avec l'envoi divin, un mandat en accord avec l'histoire du salut. Et il faut voir que Dieu a eu des hommes qui ne faisaient pas leur propre promotion ou qui n'apparaissaient pas avec un grand programme, mais des hommes envoyés par Dieu avec le message actuel de Dieu pour leur présente. C'est de cela qu'il s'agit. Mais dans ce contexte, une pensée m'est venue que je voudrais mentionner, pas directement comme un avertissement, mais tout de même. Il y a des hommes ou des personnes qui admirent réellement Frère Branham et qui placent ou qui le placent comme autrefois le peuple d'Israël ont placé Moïse sur une très haute position, comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu. Les scribes et les pharisiens se sont assis sur la chaise de Moïse. Matthieu 23, verset 2. Oui, les uns disaient, nous avons Abraham pour père. Les autres disaient, nous avons Moïse. Et le Seigneur a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et si vous croyez Abraham, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi, selon Jean 4, verset 46. Aujourd'hui, aussi, il est possible que l'on s'assoie sur la chair de Frère Branham, très haut, et que l'on n'ait plus de relation avec la réalité divine que nous trouvons dans les Écritures, mais que l'on quitte simplement le terrain de la parole de Dieu pour se perdre dans des citations et s'y perdre complètement. Cela peut ne pas nous sembler évident ici. Nous qui ne sommes pas aussi familiers avec le développement des choses, surtout dans le monde anglophone. Là-bas, tous ceux qui se sont placés sur la chair de Branham croient que Christ est déjà revenu. Et ils interprètent et tordent tellement les choses que j'ai parfois l'impression qu'en tordant les choses, ils deviennent eux-mêmes tordus. Et qu'il n'y a plus de retour possible parce qu'ils ont franchi une limite. Ce que Dieu nous a donné, et cela est d'une grande valeur, c'est que nous avons été ramenés à la parole écrite. Nous avons pris ce chemin Et ainsi, nous laissons Dieu lui-même dire par sa parole ce que nous avons à proclamer. Je vais vous donner un, deux ou trois exemples. Dimanche encore à Londres, un frère disait que le Seigneur était déjà venu, et ainsi de suite. Je lui ai dit, frère, tant que tu me vois encore ici sur terre, le Seigneur n'est pas encore revenu. Quand le Seigneur viendra, je partirai. Alors je partirai. Il m'a regardé. Il a encore dit plusieurs autres choses. Et quand on écoute leurs arguments, dans la dernière lettre aux églises, Apocalypse chapitre 3, adressée à l'église de Laodicée, « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. » Et alors ils disent, dans les six premières lettres aux églises, le Seigneur n'était pas là, donc il ne pouvait pas frapper à la porte. Maintenant, il est là. Maintenant, il frappe. Et celui qui ouvre, il entre et soupe avec lui. Il y a un argument après l'autre, au lieu de comprendre que toutes les lettres aux églises s'adressent à tout le peuple de Dieu, en général, dans tous les temps. Mais on prend des particularités, on les transforme, et les gens sont séduits. Après avoir parlé environ une demi-heure, ce jeune homme m'a dit, « Frère Franck, pourquoi nos frères ne le savent-ils pas ? Ils pourraient le savoir s'ils ne cherchaient pas des spécialités pour se faire un nom et pouvoir briller avec des révélations spéciales, mais s'ils revenaient humblement à la prédication de l'évangile simple, mais pur. Laissons de côté les choses qui viennent des hommes et concentrons-nous sur ce que Dieu fait. Et nous croyons de tout cœur que nous entrons maintenant réellement dans la dernière phase avant le retour de Jésus-Christ. Je le crois avec pleine conviction. Personne ne peut ni ne doit me demander combien d'années ou combien de temps penses-tu qu'il reste. Nous n'avons pas besoin de calculer. Nous devons simplement utiliser chaque jour que le Seigneur nous donne pour sa gloire. Nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Le temps est court et il touche à sa fin. À quoi sert tous les calculs que nous pouvons faire? Peut-être puis-je encore exprimer cette pensée avant de l'oublier. Lorsque j'ai traversé la rue tout à l'heure et que j'ai vu non seulement des individus, mais des groupes entiers traverser de l'autre côté de la rue, j'ai été saisi d'une compassion pour le peuple. J'aurais souhaité que nous ayons un tract approprié à la main, une brochure, un flyer, et que nous allions dans le parc au lieu de nous nourrir toujours nous-mêmes spirituellement, juste qu'à en être rempli et débordé, que nous transmettions aux autres ce qui est devenu précieux pour nous personnellement. Et nous devons revenir à ce point où l'amour divin du salut nous pousse dans la rue, au carrefour, le long des clôtures, car c'est la dernière étape. Des ouvriers ont été appelés dans la vigne. Les derniers, quand ont-ils été appelés? À la 11e heure. Et ensuite, tous ont reçu le même salaire. Vous connaissez bien cette parole. Matthieu, chapitre 20, verset 6. Mais le Seigneur a envoyé des serviteurs pour inviter au festin des noces. Donc, pas à une évangélisation quelconque d'il y a certaines années. Mais une invitation directe au festin des noces. Et voici, les invités ne sont pas venus. Tout était prêt. Mais ils ne sont pas venus. Alors le maître de la maison a dit, Allez dans les places, dans les rues de la ville et amenez les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Mais pas seulement les pieux, ceux qui prient toujours bien, avec un visage sérieux, mais allez dans les rues, le long des haies, des clôtures, là où les gens ne se comportent pas toujours comme il faut. Amenez-les et la salle se remplit de convives. Nous avons le message divin pour ce temps. L'autre partie reste et demeure la prédication de l'Évangile pour montrer aux hommes le chemin du salut. C'est réellement nécessaire. Et si le feu divin commence réellement à brûler en nous et que le Saint-Esprit peut être répandu, alors nous ne pousserons pas cela comme une charge devant nous, mais la puissance vivifiante nous poussera. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pas ceux qu'il faut pousser et qui avancent seulement quand on les pousse, mais qui s'arrêtent. Ils s'arrêtent comme une voiture sans carburant. Non, il faut que cela arrive au point où Dieu puisse nous rassembler comme une unité divine, comme plusieurs membres formant un seul corps avec lequel il peut agir. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 que nous sommes plusieurs membres, mais un seul corps, à savoir le corps du Seigneur. Et nous devons maintenant discerner le corps du Seigneur, comme Paul l'écrit aux Corinthiens au chapitre 11. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. 1 Corinthiens 11, verset 29. Nous sommes où nous ne sommes pas seulement un emballage quelconque, mais nous sommes des membres nés de nouveau pour une espérance vivante portant en nous la vie divine, des membres du corps de Christ. Et ces membres doivent être assemblés par le Saint-Esprit. Et vous savez qu'il y a deux unités. L'une vient de Rome, de l'Antichrist, l'autre vient de Christ. Et nous sommes soumis à Christ qui est la tête et qui doit avoir la prééminence en toute chose, en accord avec Colossiens 1, verset 18. Afin que ce ne soit plus l'homme, mais que ce soit Dieu, par le corps, par les membres du corps, qu'il peut utiliser. Dans Jean, 1 Pierre Jean, chapitre 1, verset 1. Premier épître de Jean, chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Quelle parole merveilleuse! Ce qui était dès le commencement doit être, oui, sera aussi à la fin. Nous n'avons pas un autre évangile, ni un autre message. Nous avons l'évangile de Jésus-Christ. Et par grâce, nous pouvons voir les promesses dont nous pouvons attendre l'accomplissement. Le processus divin est réellement celui-ci. Dieu donne les promesses et ceux qui les croient les verront s'accomplir. Cela nous a été lu dans Romains chapitre 1. Le juste vivra par la foi, verset 17, Romains 1. Et dans Romains chapitre 4, il nous est dit, Abraham a été justifié sur base de la circoncision, ou bien avait-il déjà reçu la justification par la foi avant même la circoncision? Et la réponse est non pas par la circoncision, mais bien avant. Et la circoncision lui a été donnée ensuite comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi. C'était la foi, mais cette foi a été revêtue. Comprenez-vous cela? C'est un paradoxe. Mais cette foi est simple, dont on ne voit pas encore la réalité. Si nous savons que celui, si nous savons qui est celui qui nous a donné la promesse, alors nous regardons à l'invisible comme si nous le voyions déjà et nous le considérons fidèle et véritable. Et nous savons que ce qu'il a promis, il l'accomplira certainement. Le ciel peut passer, mais sa parole ne trompera pas. Et cette foi simple, mais vivante, produite par la parole et par l'esprit, elle opère des miracles lorsque l'œuvre de Dieu sonne. Je l'ai mentionné à maintes reprises. De la même manière que le Nouveau Testament a commencé, à savoir avec l'accomplissement des prophéties bibliques, Jean a été un prophète promis. Et lorsque le temps fut accompli, un homme envoyé de Dieu apparut. Comme cela était écrit dans le prophète Ésaïe 40, verset 3, et aussi dans Malachie, chapitre 3, verset 1. Confirmé dans le Nouveau Testament, promis. Et c'est pourquoi il était plus qu'un prophète. Pas plus qu'un homme. Les prophètes avaient des visions, annonçaient, prophétisaient sur la grâce qui devait venir. Jean n'avait plus prophétisé. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a établi le pont, le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et pour les autres, c'était incompréhensible que cet homme vêtu de peau de chameau et ceint d'une ceinture apparaissait ainsi. Pas de col retourné, pas de vêtements comme ceux que portent parfois ceux du clergé. Ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, pas ainsi. Un homme envoyé de Dieu. Je peux imaginer que les moqueurs ont dû penser plus d'une fois. Hein, voici un beau chameau qui passe. Mais il était un homme envoyé de Dieu. Avec le message divin, pour le jour, pour l'heure. Et lorsque la parole dit dans l'évangile de Luc que tous devaient venir à la fois par lui, ou dans Jean chapitre 1, et aussi dans l'évangile de Luc, que tous devaient venir à la fois par lui, alors c'est une parole très sérieuse. Et celui qui veut mal comprendre Dieu pourrait facilement le faire ici. Jean chapitre 1, verset 7. Il vint pour servir des témoignages. Non, Jean 1, verset 7. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crûent par lui. Pourquoi pas par tous les groupes d'évangélistes et des docteurs? Il y avait pourtant des hommes religieux à cette époque, instruits avec tout le savoir possible. Mais maintenant, tous devaient venir à la fois par lui, par un seul homme. Pourquoi? Cet homme était le porte-parole de Dieu. Cet homme était destiné par Dieu pour cette heure afin d'apporter le message au peuple, de préparer le chemin du Seigneur et de conduire les cœurs vers le Seigneur. Comme il est écrit aussi dans Luc chapitre 1, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Luc 1, verset 17. Je crois qu'il a été dit à Frère Branham, certains veulent le formuler comme si il lui avait été dit que tu précéderas la seconde venue de Christ. Mais je crois avoir entendu suffisamment d'enregistrements, des prédications directes en anglais pour me faire une vue d'ensemble à ce sujet. Il a été dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, De la même manière, tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Dieu peut prendre ces hommes, mais il nous laisse le message. Et si c'est un message divin, alors il accomplira en tant que parole de Dieu. C'est pourquoi il a été envoyé. Et nous croyons de tout cœur que la dernière phase a commencé, ou bien va commencer. Et lorsqu'il ne s'agira plus de moi ou d'autres, mais ce sera l'action de notre Dieu selon la parole de Zacharie, chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Il ne peut pas en être autrement. C'est comme cela que ça a commencé avec l'Église du Nouveau Testament. L'Esprit de Dieu a été répandu et la mécanique a reçu la dynamique et ainsi l'Église, comme un organisme vivant, s'est tenue à la disposition du Seigneur. Il en sera de même maintenant dans les derniers jours. Et mon souhait, mon désir est que nous recevions la conduite du Saint-Esprit pour les choses pour lesquelles Dieu veut nous utiliser. Cela a toujours été ainsi. Dieu n'a pas pris le vent ou les arbres, mais des hommes qu'il pouvait utiliser, à qui il pouvait donner des instructions, des missions, mais des hommes qui ne faisaient pas leur propre programme, mais devenaient eux-mêmes une partie du plan divin de salut. Pour moi, c'est quelque chose de très élevé quand on y pense, notamment à Jean, qu'une prophète écrite pendant 800 ans, 400 ans, et soudain, elle est réalité. Et n'est plus seulement dans Ésaïe 40 et dans Malachie chapitre 3. Et elle est là, elle se tient sur deux pieds, elle est devenue réalité. L'histoire du salut suit son cours. Il en a été de même avec notre Seigneur. La parole de la promesse fut adressée à Marie. Et pour un médecin, peut-être difficile à comprendre, mais pas pour un croyant. Un engendrement par l'esprit. Les hommes peuvent se casser la tête dessus, ce n'est pas nécessaire, car il est écrit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Luc 1, verset 35. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et pensons à Psaume 2. Tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. C'est ainsi que cela a commencé. La parole de la promesse fut donnée, Marie y crut, le Saint-Esprit la couvrit de son ombre, et la parole devint chair et prit forme. Il en est de même pour nous. Nous croyons la parole de la promesse divine, sans condition, sans réserve. Pouvons-nous l'exprimer? Nous ne pouvons pas l'exprimer, et ce n'est pas nécessaire. Si l'on voulait chercher la vie en un homme, on le trouverait où, mon frère? Dis-moi. Le sang circule ici, le cœur bat là-bas, la pression. Mais où est la vie? Quand est-ce qu'elle vient? Quand est-ce qu'elle part? Comment vient-elle? Où va-t-elle? Dieu l'a définie ainsi. Prenons la vie nouvelle. Le Seigneur dit, le vent souffle où il veut. Tu ne sais où tu... Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean 3, verset 8. Et il en est ainsi. Il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer, mais que nous croyons de tout notre cœur. Qui peut expliquer Dieu? Qui peut expliquer l'éternité? Qui peut expliquer la résurrection? Qui peut expliquer la nouvelle naissance? Qui peut expliquer tout cela? Nous n'avons pas besoin de le faire. Mais nous pouvons l'expérimenter. Cela peut devenir une expérience au milieu de nous. Et alors, nous serons comme cet homme, comme ce Sam, qui ne savait pas lire, mais qui partout portait toujours la Bible avec lui, dans le champ et partout. Vous connaissez cette histoire de Frère Branham. Alors, le patron a dit, « Dis donc, Sam, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne sais pas lire et pourtant, tu te promènes toujours avec la Bible. Est-ce que tu crois vraiment ?» Et Sam répondit, « Tu sais, patron, je ne crois pas seulement ce qui est écrit entre ces deux couvertures, mais je crois aussi ce qui est écrit au-dessus, Sainte Bible. » C'est la simplicité de l'homme croyant. Le monde est scandalisé. Et ils se disent, les croyants ont tous quelque chose qui ne va pas dans la tête. Il n'y a pas grand chose à faire avec eux. Ils ne s'intègrent pas vraiment dans la société. Ils ont leurs propres intérêts. Ils ne marchent plus avec nous sur le large chemin comme auparavant. Ce sont des gens bizarres. Non, nous ne sommes pas bizarres. Nous avons les deux pieds sur terre. Nous sommes ici dans ce monde. Mais nous avons expérimenté Dieu et nous lui en sommes reconnaissants de tout notre cœur. Nous savons en qui nous avons cru. Et pour nous, la parole est une substance divine. Et tout comme la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici, rien. Rien ne disparaît, mais la parole pénètre dans nos cœurs conformément à la parole qui dit, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Hébreux 4, verset 12. Ce qui me dérange personnellement, c'est que nous trouvons déjà écrit. Non, pas ce qui me dérange. Ce qui me submerge personnellement, c'est que nous trouvons déjà écrit dans les Écritures tous ces liens, tous les événements que nous voyons maintenant à la fin des temps. Et j'aime le dire avec une certaine satisfaction. Dieu a pu faire écrire toute l'histoire à l'avance. Il n'a jamais eu besoin de le dire, de dire, mince, j'ai oublié quelque chose. Tout était déjà écrit. Jusqu'aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, jusqu'à la nouvelle Jérusalem, jusqu'au dernier jugement, tout est déjà écrit. Jusqu'au règne de 1000 ans, tout est déjà écrit, tout le déroulement. Les sages de ce monde, eux, écrivent après que les choses soient passées. Oui, quand tout est passé, ils écrivent tous. Mais Dieu, lui, a pu tout annoncer et faire écrire à l'avance parce qu'il est omniscient. Il a vu la fin avant le commencement et savait qui croirait et qui ne croirait pas. Et c'est pourquoi il a pu inscrire les noms de ceux qui croiraient dans le livre de vie avant la fondation du monde. Dieu voulait que tout soit sauvé. Dieu voulait que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Mais, étant Dieu, il savait qui le serait et qui ne le serait pas. Ainsi, il a pu écrire à l'avance le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Vous savez que dans l'un sont inscrits les élus, ceux qui auront part à la première résurrection, et dans l'autre, ceux qui seront jugés au jugement final. Il suffit simplement de lire dans Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11. Non, Apocalypse 20, verset 12. Mais nous n'avons pas besoin d'entrer en détail dans ces choses. Une autre fois, nous allons les considérer de manière dans l'enseignement. Ce qui m'importe aujourd'hui particulièrement, c'est ce que nous vivons actuellement. Depuis ces dernières semaines et ces derniers mois, nous vivons un bouleversement en Europe que nous n'aurions pas imaginé depuis 45 ans. Et beaucoup sont stupéfaits, même par la rapidité avec laquelle les événements ont lieu. Mais c'est ainsi. Quand cela commence, on peut attendre longtemps, mais quand ça commence, alors tout s'enchaîne. Un événement suit l'autre. Et nous voyons aussi les efforts d'unification religieuse. La conférence à Amsterdam en 1948, partout, à New Delhi et par ailleurs, le rapprochement religieux et maintenant le rapprochement politique, la fin de la division de l'Europe. Et si on observe cela de manière biblique, à la lumière de la biblique, et qu'on le classe, alors on voit clairement la formation de l'ancien empire romain, comment il est rétabli. On voit où se déplace le pouvoir. On voit qui, en réalité, détient l'autorité. Sans entrer trop en profondeur dans ces choses, mais quand on pense aux révolutions d'octobre, l'une il y a longtemps et l'autre récemment, tout cela s'accomplit comme Dieu l'a dit dans sa parole. Et là, je peux vous lire quelques passages bibliques. Daniel a vu quatre animaux. Et les quatre animaux étaient des royaumes qui se succèdent. Et le dernier était l'Empire romain. Cela, tout le monde le sait. Et cela dure jusqu'à la fin. Car il vit aussi la statue d'or, d'argent, puis cela descendu jusqu'à l'orteil, les 10 doigts. Mais seulement les 10 cornes aussi, les 10 orteils. Mais ils ne se mélangeaient pas. C'était du fer et de l'argile, deux systèmes fondamentalement différents. Mais ils adhéraient l'un à l'autre. N'étaient pas une seule et même chose, mais devaient former une unité parce que cela était nécessaire pour la phase finale. Et ainsi, il est écrit dans Apocalypse 17 qu'ils doivent tous mettre leur puissance à la disposition de la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et alors, la haine monte. Et alors, soudain, Rome est brûlée. C'est ainsi qu'il est écrit dans Apocalypse. Vous savez, je vois parfois les choses à partir de la prophétie biblique et je les observe très soigneusement, spécialement maintenant. Ce qui est arrivé récemment aux Juifs ou qui arrive, que ce soit il y a quelque temps à Berlin, maintenant en France, là, des cimetières, là, des tombes sont profanées. Et ce qui est le pire de tout, j'ai le journal de Thuringe chez moi, sur le bureau, un énorme article lorsque la célébration des 1000 ans eut lieu en Russie. Là, des banderoles ont été montrées avec des textes morts aux Juifs, à nous la vie. Ce qu'on a là comme des titres, comme des slogans contre les Juifs en Union soviétique, depuis que la célébration des 1000 ans a eu lieu, est diffusée, de sorte que dans le journal, il est écrit très ouvertement qu'à chaque instant, on peut s'attendre à ce que les choses cruelles arrivent aux Juifs en Russie. Si nous allons maintenant dans la Seconde Guerre mondiale, nous ne voulons pas remuer l'histoire parce que j'ai dit que c'est l'histoire. Lorsque Gorbatchev fit la dernière visite chez Honecker à Berlin-Est, il écrivit dans le livre d'or une phrase: « Celui qui vient trop tard, l'histoire le punit. » Quelques semaines plus tard, Honecker, qui était venu trop tard, avait déjà été puni par l'histoire et il n'était plus là. Beaucoup d'autres qui sont venus trop tard ont été punis, ont été destitués et ainsi de suite. Mais je veux dire ici, spécialement en ce qui concerne le peuple d'Israël, que chaque croyant aime les Juifs tels qu'ils sont. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord avec toutes leurs décisions. Eux non plus ne sont pas d'accord avec les nôtres. Mais il n'y a aucun croyant qui est un Juif. Celui qui n'aime pas un Juif de tout son cœur, même le Juif qui m'a trompé, même celui-là, peu importe comment il est avec cet homme, quelque chose ne va pas. Car Dieu a choisi Israël sur base d'Abraham, Isaac, Jacob. Et il dit à la femme dans Ésaïe 49, « Si tu oubliais ton enfant, moi je ne t'oublierai pas. » Et ensuite il dit, « Quand elle l'oublierait même, moi je ne t'oublierai point. » Car je suis le père, un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Il faut simplement avoir du respect devant les décisions divines, et cela suffit. Dans tous les cas, il est écrit dans Luc 21, et je suis aussi reconnaissant que ce soit écrit dans plusieurs évangiles, car ainsi on peut lire les différents évangiles qui se complètent ensuite. Dans Matthieu, il est écrit par exemple seulement du figuier. Ici, il est écrit du figuier et de tous les autres arbres. Luc 21, verset 29-30. Luc 21, verset 29. Il leur dit une nouvelle comparaison. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Verset 30. Dès qu'ils ont poussé. Revenons à la Deuxième Guerre mondiale et après. Des dizaines de peuples qui étaient sous administration anglaise. Pardon, frère. Coupe-feu. Aussi sous administration française, se sont tous rendus indépendants, tous. Un Bokassa, ici un autre là, tout est devenu indépendant. Pas seulement Israël a poussé et est devenu un État. Sous la couronne britannique, il y avait 49. Tout est devenu indépendant, tous sont devenus indépendants du premier au dernier. Et il y a des gens qui veulent renommer Grande-Bretagne, c'est-à-dire GB, Grande-Bretagne en Petite-Bretagne, parce que le grand empire mondial n'était plus là. Un professeur d'Angleterre m'a donné la faute en tant qu'Allemand qu'ils ont perdu leur état d'empire. Bon, quoi qu'il en soit. Mais je voulais dire, tout a en quelque sorte rejeté, tous ont rejeté le joug. Ils sont tous devenus libres. Aussi les Juifs. Les Juifs sont revenus en masse après la Seconde Guerre mondiale, 1948, le 14 mai. On chantait dans les rues de Jérusalem, comme nous l'avons chanté en chœur tout à l'heure, Glory, Glory, Alléluia, avec la différence qu'ils sont chantés. La grâce et la gloire marchent devant ta face, comme il est écrit dans le psaume 89. Mais que voyons-nous maintenant? Pourquoi maintenant les violences arrivent contre les Juifs dans les différents pays? Parce qu'il y en a parmi eux qui ont encore dormi, qui n'ont pas encore compris qu'ils n'appartiennent pas à la Russie, ni à la France, ni à l'Allemagne, mais doivent retourner dans leur pays parce que les deux prophètes ne paraîtront pas à Moscou, à Berlin, à Washington, mais à Jérusalem. Et Dieu agit avec les nations là où elles sont. Mais avec son peuple Israël, il agit dans le pays promis. Ils doivent retourner. Et cela a été dit à Moïse. Ainsi, cela est écrit dans Jérémie chapitre 31. Ainsi, cela est aussi écrit dans Ézéchiel. Ainsi, cela est écrit dans Ésaïe 14. Ainsi, cela est écrit dans toute la parole de Dieu. Maintenant, le Seigneur qui aime son peuple doit à nouveau à la fin de cette génération. Et je vous prie de bien comprendre cela maintenant. Au début de cette dernière génération, il y eut un mouvement de masse. D'abord là-bas, fondation de l'État. Les peuples s'écrouèrent ou bien ont rejeté le joug. Ils devinrent libres, ils devinrent des pays, ils devinrent des États. Et ainsi de suite. Et maintenant, à la fin, les républiques baltes poussent, veulent être libres. Les Juifs qui ne sont pas encore revenus et qui rêvent encore un peu, on leur fait en quelque sorte du feu pour qu'ils fassent leurs valises parce que l'heure est là. Ils doivent faire leurs valises, ils doivent retourner. Avez-vous compris cela? Nous le lisons dans le journal et nous secouons la tête et nous disons, ah, pauvre, misérable et encore cela. Oui, encore cela, car Dieu veut les ramener. Et s'ils ne le comprennent pas dans le bien, alors le Seigneur doit donner un avertissement. Oui, il doit aider afin qu'ils retournent leur chemin. Ils retournent, car le temps est expié, le temps est arrivé. L'arbre, le figuier a poussé, les autres, et maintenant voici les derniers poussent, et cela ira très vite. J'ai entendu Eskin dire au Kremlin, nous n'avons pas fermé le robinet aux Tchèques et aux Hongrois et à tous ceux qui se sont séparés de nous. Pourquoi le fermons-nous maintenant aux républiques baltes? Et nous voyons que Dieu a déjà là, parmi le peuple, les gens qui doivent simplement prendre la bonne décision. Et là, il s'agit même pour Gorbatchev de faire attention, de ne pas venir trop tard avec ses décisions afin que l'histoire ne le punisse pas. Je souris un peu maintenant, mais cela peut arriver très facilement. Et je vous dis aussi pourquoi. Maintenant, nous vivons dans ce développement. Que ce roi et prince, quel qu'il soit, celui qui ne participe pas au programme de Dieu pour cette heure, sera destitué. D'autres doivent venir afin que l'histoire reçoive ainsi la configuration globale, comme cela a été prédit pour ce temps et selon la prophétie. Moi-même, je m'en réjouis, car lorsque nous voyons tout cela arriver, alors nous devons relever nos têtes parce que nous savons que notre rédemption approche. Mais celui qui me fait vraiment de la peine maintenant, c'est réellement le Russe. Et vous savez, j'aime les Russes de tout mon cœur. Ils n'ont maintenant pas de place pour loger leur armée qui revient de tous ces pays. Cela est devenu une grande détresse, mais ils doivent bien revenir. Car les Saintes Écritures parlent aussi de cela. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Pas quand il y aura guerre et bruit de guerre, mais quand les tremblements de la terre, la famine, les temps difficiles et ainsi de suite, mais quand justement cet état est atteint, comme nous l'avons maintenant. Et aussi, frère Branham a déjà dit, il y a beaucoup d'années, quand l'Est et l'Ouest se rencontreront. Qui aurait cru possible cela, que la guerre chaude se termine et que la guerre froide aussi se termine et qu'on ne fasse plus que négocier? Combien vite tout cela doit être démantelé afin que finalement le calme arrive? Tout doit arriver ainsi afin que l'écriture soit accomplie. Les frontières doivent tomber afin que nous aussi nous puissions aller partout et qu'ils puissent venir chez nous. Frère Gemanis, il est parmi nous et nous étions récemment rassemblés à Bratislava et à Presbourg. Nous avons vu comment une église se remplit de gens et il devait même rester debout. La faim est parmi les gens. Et je veux vous dire, spécialement en tant qu'Autrichien, vous êtes un pays d'accueil. Nous sommes tous venus chez vous. Nous étions de bons touristes. Nous aimons voyager. Aussi, les Français ont bien profité de nous. Mais maintenant, nous pouvons bientôt tous voyager. Maintenant, vous devez aussi comprendre que nous avons une tâche. Et que pensez-vous si prochainement nous faisons une réunion à Prague, à Leipzig, ici et là? Que nous puissions tous aller dans la rue, faire une réunion, proclamer le message divin. Et cela avec toute puissance, oui. Nous avons tous une tâche commune, un objectif commun. Et celui jusqu'à présent, était trop habitué au confort, il faudra lui enlever cette habitude peu à peu. Dites-moi, qu'en est-il de nous? Notre vie, notre temps, tout appartient-il vraiment au Seigneur? J'ai apporté ce prospectus ici. J'ai aussi une pièce à la maison. Je ne voulais pas la porter avec un écu 92. Elle a déjà été frappée ici chez nous afin d'aider aussi la lutte contre le cancer avec 10 marques dans cette affaire. Mais ce qui me frappe beaucoup ici, c'est le symbole qu'ils ont choisi avec la prostituée sur la bête. Très, très étrange. Et on a déjà au 17e siècle parlé de Madame Europe qui devait maintenant être réalisée. Et quand on voit ensuite les 12 étoiles qui forment ici l'encadrement, vous pouvez voir cela après. Cela nous dérange un peu parce qu'il y a en effet deux images dans Apocalypse. Il y a une image dans Apocalypse 12, et là, une femme est montrée qui porte une couronne de 12 étoiles. Nous le savons tous. Et je suis reconnaissant à Dieu que Frère Branham, spécialement à ce sujet, dans la prédication, questions et réponses sur l'épître aux Hébreux, a dit littéralement, c'est la vraie Église qui est couronnée de la doctrine des 12 apôtres. Oui, et puis il y a l'autre femme, à savoir dans Apocalypse chapitre 17. Cette prostituée, vêtue de pourpre et d'écarlate, richement parée d'or et de pierres précieuses, et ainsi de suite. Et elle a la domination sur les rois de la terre. Apocalypse 17, verset 4, verset 18. Et la femme était ivre du sang des saints qui avait été répandu. C'est le verset 6 d'Apocalypse 17, dont cela doit être une institution qui est très riche, très parée de pourpre, de tout ce qui en fait partie, beaucoup d'or et tout ce qui s'y trouve. Mais ils ont maintenant pris le symbole des 12 étoiles et cela ne me plaît pas. Cela n'aurait pas dû être. Mais qu'est-ce que l'ennemi n'a pas pris du Seigneur? Quelqu'un pardonne. C'est quelqu'un, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma manière de parler, mais quelqu'un m'a dit, l'ennemi est comme un singe. Il veut tout imiter de Dieu. Et alors parfois les images et les termes sont confondus. Que Dieu soit remercié de ce que nous avons reçu le discernement afin que nous recevions, nous reconnaissions réellement. L'Église est maintenant ramenée dans son état original. La doctrine des 12 apôtres a été remise sur le chandelier. Le même enseignement sur Dieu, le même baptême, la Sainte Cène, tout a été remis dans la prédication sans falsification, de manière pure et sainte. Et l'Église et à l'Église a été donné un enseignement complet. D'un autre côté, nous vivons dans le temps dans lequel la grande apostasie trouve en effet aussi son accomplissement. Et nous n'avons pas besoin d'entrer davantage dans ces choses. Mais une chose est claire, uniquement celui qui se soumet à Dieu et à sa parole, seul, à celui-là, Dieu peut se révéler réellement et alors il pourra discerner où se trouve quoi. Sinon, tout sera décoré de manière que cela ressemblera tellement au véritable que même les élus pourraient être séduits, selon Matthieu 24, verset 24. Paul écrit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Pourquoi pas? Parce que la parole de Dieu est devenue pour nous une lumière qui brille dans les ténèbres. Nous pouvons dire avec un cœur sincère, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, selon Psaume 119, 105. Ce verset ne se trouve pas simplement quelque part dans la parole comme un slogan, n'est-ce pas, accroché sur un mur. Ce verset est devenu une réalité divine dans notre cœur et dans notre vie. Ta parole est une lumière à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. Elle est esprit, elle est vie. Elle n'est donc pas interprétée, mais elle est reçue afin qu'elle puisse devenir pour nous une révélation. Aussi Pierre l'a exprimé spécialement en ce qui concerne le retour de Jésus-Christ, que nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais, oui, je lis ici, de Pierre chapitre 1 à partir du verset 16. De Pierre 1 verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Quel témoignage! Pas des fables, pas ce que d'autres ont inventé ou dit. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce qui était dès le commencement, nous vous l'avons annoncé. des témoins oculaires, des témoins auditifs, des hommes qui ont vécu même la montée au ciel de notre Seigneur. Et puis, puisque nous avons justement célébré la montée au ciel de notre Seigneur, laissez-moi lire ce texte merveilleux de Luc chapitre 24 et aussi Actes des Apôtres chapitre 1. C'est simplement merveilleux ce qui est écrit ici et ce qui s'est produit. Luc chapitre 24, verset 50 et verset 51. Il les conduit jusque vers Béthanie, puis ayant levé les mains, il les bénit. Verset 51. Pendant qu'il les bénissait, ils se séparèrent d'eux et furent enlevés au ciel. Cela s'est réellement produit. Ce n'est pas une histoire. Avec notre Seigneur, tout s'est passé de manière réelle. Sa naissance. Il a été dit au berger, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et voilà, cela a été ainsi. Luc 2, verset 12. Tout avec notre Seigneur était réel et c'était visible. Et je le souligne, peut-être parce que on voudrait spiritualiser le retour de notre Seigneur. Il serait revenu spirituellement. Non, le Seigneur est venu corporellement. Et celui qui ne confesse pas que Jésus est venu dans la chair à l'esprit d'Antichrist, c'est Jean qui l'écrit. Et celui qui ne confesse pas qu'il reviendra de la même manière, à savoir de manière corporelle, comme il est monté au ciel, celui-là également à l'esprit Antichrist. Et là, il n'y a pas d'excuse. Tout au contraire. À ce moment-là, nous pouvons non seulement éprouver les esprits, mais directement les séparer des uns des autres, parce que la parole a déjà accompli l'épreuve. Nous avons besoin simplement de savoir de quel côté nous nous tenons. Et ainsi, l'épreuve est aussi simple. Non, il est écrit, et cela dans Actes des Apôtres, chapitre 1, et ici, nous sommes au verset 9 à 11. Acte 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers lui pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Verset 11. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Ça, c'est la vérité biblique sur le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au jour de la Pentecôte, il est venu en esprit pour prendre sa demeure dans son Église, dans les cœurs de ceux qui ont été rachetés par le sang, réconciliés avec Dieu et régénérés par l'Esprit pour une espérance vivante, afin de prendre, de faire sa demeure en eux par le Saint-Esprit. Mais en ce qui concerne son retour, le même Jésus, qui est né dans ce monde, qui a vécu ici, mangé, bu, souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié à mort, qui est ressuscité le troisième jour et qui est monté au ciel. Le même Jésus reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Et quand il reviendra, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, avec le cri de commandement, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Alors les morts en Christ ressusciteront premièrement, 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons transformés Et ensemble, nous serons enlevés corporellement, oui, avec les cœurs transformés, car c'est ainsi que c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ce qui est corruptible revêtira l'incorruptibilité. Oui, ce qui est mortel revêtira l'immortalité. 1 Corinthiens 15, verset 53. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 1 Corinthiens 15, 49. C'est la vérité biblique. Et pour ajouter encore cela, et on peut ajouter à cela 1 Jean chapitre 3, les versets 2 et 3. 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. L'épouse verra l'époux. Elle le verra et célébrera avec lui le festin des noces. Que Dieu nous accorde la grâce jusqu'à la fin. Et je veux vous encourager, et cela avec la pensée suivante. Si vous savez que Dieu a commencé en vous la bonne œuvre, alors vous devez aussi savoir qu'il l'achèvera. Car c'est ainsi que c'est écrit. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Mais s'il y a quelqu'un ici en qui cette œuvre de Dieu n'a pas encore commencé, alors qu'elle puisse commencer aujourd'hui. Car là où rien ne commence, rien ne peut avancer et rien ne peut être achevé. À un moment donné, Dieu doit faire le commencement en nous et avec nous, afin que nous devenions une nouvelle créature et que nous puissions expérimenter Dieu et que nous puissions lui permettre de continuer à agir en nous jusqu'à ce que, par grâce, nous puissions voir l'accomplissement. Seulement, en quelques phrases pour terminer, nous pourrons dire que nous vivons dans la fin des temps. Nous voyons le développement dans tous les domaines. Et notre principale préoccupation est cependant ce qui est maintenant en premier lieu, à savoir l'exécution de la dernière mission de l'Église, l'appel à sortir de tous ceux qui sont encore dispersés dans tous les peuples, les langues des nations, dans toutes les dénominations, dans toutes les communautés. Nous croyons qu'il y en a encore beaucoup dans les églises catholiques, dans les églises évangéliques, dans les églises libres que Dieu cherche, qui cherchent Dieu, mais qui n'ont pas encore entendu l'appel à sortir, qui n'ont pas encore entendu ces choses. Nous ne nous élevons pas au-dessus d'eux, mais au contraire, nous voulons nous placer en dessous d'eux et leur apporter le merveilleux message de salut et de la grâce et faire encore savoir à tous les hommes que devant lui, tous sont égaux. Et ça aussi, ça doit être dit. Chaque homme qui est né dans ce monde est né de la même manière. Le père peut être saint, la mère pieuse, les parents peuvent avoir lu la Bible le matin, la midi, le soir. Nous pouvons avoir été des hommes de prière. Chaque naissance naturelle demeure une naissance naturelle. Et chaque homme qui est né de manière naturelle dans ce monde est séparé de Dieu et entré dans ce monde séparé de Dieu. Et personne n'est uni à Dieu par quelques actes religieux que ce soit. Il faut l'action divine dans notre vie. Avant que nous ne puissions expérimenter de quelque manière l'action divine dans notre vie, nous devons comprendre que Dieu a agi en Christ. Cette œuvre divine est en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, verset 19. Ainsi, nous n'avons pas besoin de regarder à d'autres personnes pour dire, oh oui, ceux-là sont un peu catholiques, romains, d'autres sont grecs, orthodoxes, les troisièmes, évangéliques, luthériens, et ainsi de suite. Cela ne sert à rien. Tous nos enfants, nos parents, nos pères depuis Adam, tous sont nés dans ce monde sous la même malédiction. Et c'est pourquoi l'appel est, si un homme n'est né de nouveau, quel qu'il soit, pensez-vous que les enfants des prophètes étaient sauvés? Ils sont nés exactement comme tous les autres et sont venus dans ce monde comme tous les autres. C'est pourquoi, parce que Dieu est juste, il l'a fait ainsi. Comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. Heureux l'homme qui accepte consciemment Jésus-Christ, qui reconnaît simplement, je suis séparé de Dieu. Je ne suis pas encore né de nouveau. Je suis seulement né dans ce monde. J'ai un peu lu la Bible. J'ai été un peu pieux. J'ai eu peur autrefois, mais ainsi de suite. Et je ne veux pas être perdu. Mais, mets la main sur le cœur. As-tu fait une véritable expérience avec Dieu? Connais-tu un jour, une heure dans ta vie, où tu as prié jusqu'au bout, lutté, où il y a eu beaucoup de repentance, où il y a eu de la prière, une lutte, une reconnaissance? Jésus, je suis perdu. Je suis un homme pécheur. Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes à moi. Prends-moi à toi. Accepte-moi. Pardonne-moi. Sauve-moi. Avons-nous tous déjà expérimenté cela? Que suite à cette prière, qui est peut-être pénétrée de larmes, que nous puissions expérimenter que soudain quelque chose de tout à fait différent puisse suivre. Une louange, une adoration, une certitude nous est donnée par l'Esprit selon la parole de l'Écriture. Son Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qu'une simple paix qui surpasse toute intelligence d'homme puisse remplir notre cœur. Et que nous puissions ainsi chanter du profond de notre cœur. Quand la paix de Dieu pénètre mon âme, mon cœur jubile et exulte. Je peux me souvenir très précisément de ce jour et de cette heure. J'ai oublié beaucoup de choses dans ma vie, mais l'expérience avec Dieu, ces expériences me sont restées dans le cœur. Et vous pouvez me croire, je suis simplement un homme comme tous les autres, mais je voudrais voir tous ceux à qui j'ai pu prêcher. J'aimerais les voir auprès du Seigneur. Et c'est pourquoi peut-être aussi cette prédication ou cette déclaration intense. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Aujourd'hui, en ce lieu, nous pouvons faire notre expérience avec le Seigneur. Venons à lui. Il ne mettra personne dehors. Au contraire, il a dit, venez à moi, vous. Je vous donnerai le repos pour vos âmes. Je vous soulagerai. Matthieu 21, verset 28. Ce serait beau si nous pouvions tous ensemble être auprès du Seigneur. Et je crois que Dieu le fera avec nous tous. Je veux conclure avec cette phrase. S'il y a encore quelqu'un ici en qui Dieu n'a pas encore commencé, alors laisse Dieu faire le commencement dans ton cœur aujourd'hui et tu feras l'expérience qu'il continuera et qu'il l'achèvera pour le jour de son retour. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Levons-nous et prions. Père céleste, nous te remercions de tout cœur, ô Seigneur, de ce que tu es encore à l'œuvre, de ce que par ta parole, tu parles encore, tu appelles encore, tu fais encore grâce, tu attires encore à toi Tu pardonnes encore toutes les fautes. Tu pardonnes encore tous les péchés. Tu les effaces. Bien-aimé Seigneur, nous ressentons ta présence. Tu es ici. Adoration te soit rendue. Accorde maintenant à tous ceux qui ont levé leurs mains vers toi. Accorde-leur la foi en toi comme leur sauveur. Qui te voit maintenant dans la foi à la croix et sache que tu es mort aussi pour eux. Tu as aussi pris leur place et tu t'es écrié à leur place, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et à l'instant suivant, lorsque la lance a percé ton côté et que le sang a coulé pour la rédemption, nous avons été réconciliés avec Dieu. Aussi ceux qui ont levé les mains maintenant ont déjà été réconciliés avec Dieu. Recevez maintenant la réconciliation et le pardon. Et que le Seigneur vous accorde une prière, tant que ce soit, jusqu'à ce que vous receviez vous-même la certitude par l'Esprit d'être sa propriété. Vous l'êtes déjà, mais le Seigneur veut vous donner l'assurance, la certitude à vous personnellement. Alors, cela n'est plus seulement écrit dans la Bible. Alors, ce n'est plus seulement le prédicateur qui l'a dit, mais vous avez personnellement le témoignage d'être la propriété du Seigneur. Grand Dieu, nous te demandons maintenant ceci. Commence quelque chose de nouveau en nous tous. Nous prions pour une nouvelle expérience, Seigneur, avec toi. Nous prions aujourd'hui pour cela. Nous en avons besoin. Nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons être à ta disposition avec notre temps, avec nos biens, avec tout ce que nous avons. Nous voulons t'appartenir. Seigneur fidèle, je te remercie pour ce que tu as fait dans ce service. Tu as fait de grandes choses. Loué et exalté soit ton nom. Ensemble, nous te prions maintenant pour toute l'Europe. Nous prions pour tous les croyants et tous ceux qui doivent encore devenir croyants. Seigneur, car c'est ainsi que tu l'as exprimé dans la prière sacerdotale. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jean 17, verset 20. Bien-aimé Seigneur, c'est ainsi que tu as prié dans Jean 17. Aussi pour tous ceux qui devaient encore être croyants. Seigneur, en ce temps, nous pouvons croire, comme dit l'Écriture. Crois en toi, en toutes tes promesses, et nous attendons à ce qu'elles puissent tous s'accomplir. Maintenant, nous nous consacrons à toi. Nous tous qui sommes ici aujourd'hui, nous voulons nous consacrer à toi de manière nouvelle. Purifie-nous, sanctifie-nous et viens avec l'onction sainte, avec la puissance d'en haut sur nous tous et insère-nous comme des membres rendu vivant dans ton corps. Sois la tête, décide, gouverne, conduis selon ton conseil et ton bon plaisir. Nous prions spécialement pour les pays qui parlent la langue allemande en premier. Tu as béni au temps de la Réformation, tu as ouvert le chemin. Maintenant, ta parole est revenue au-delà de l'océan, presque au point d'où elle avait jailli il y a plus de 400 ans. Bien-aimé Seigneur, tes voix sont merveilleuses. Nous avons encore un désir, être une partie de ce que tu fais en nous, ô Seigneur. Nous te prions pour tous les pays voisins, la France, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg. Nous te prions pour l'Europe centrale, pour l'Union soviétique. Seigneur, nous pouvons maintenant demander ensemble dans la foi que tu commences la dernière marche de victoire. Tu peux compter sur nous, Seigneur. Nous t'avons souvent déçu. Pardonne-nous. Et nous savons qu'il est difficile de nous faire encore confiance parce que nous avons très souvent échoué. Aide-nous. Prends-nous tels que nous sommes. Rends-nous fidèles. Rends-nous véritables. Équipe-nous. Enlève tout ce qui pourrait être en nous et conduis-nous par ton esprit. Agis et gouverne au milieu de nous et dans notre vie. Ton œuvre te soit consacrée. Nous sommes à ta disposition. Aie ton chemin selon ton plan avec nous. Loué et exalté sois-tu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.